Sœurs et frères, nous voici placés ce matin devant un nouvel épisode de l'Évangile de Luc, qui est un épisode très connu, la guérison des 10 lépreux. Et nous allons essayer de comprendre les étapes de cette rencontre, une rencontre à rebondissement, parce qu'il s'y trouve des questions, des enjeux qui ne manqueront pas de rejoindre des préoccupations très actuelles, tant sur le plan de la société que de l'Église, et aussi sur le plan plus personnel. Bon, il y a d'abord cette horde de lépreux samarito-galiléens qui croisent la route d'un Jésus en marche vers Jérusalem. 10 hommes qui sont unis autour d'une détresse commune, la lèpre. On ne sait pas trop d'ailleurs, d'un point de vue purement médical, ce que la lèpre à l'époque regroupait, etc. C'est une maladie visible en tout cas. Elle est déclarée impure. C'est une maladie qui rend impure et qui vous exclut de la famille, du village et des lieux de prière. La misère, la maladie, l'exclusion ont ce pouvoir paradoxal de rassembler les gens atteints par cette misère, cette maladie, pour former une communauté improbable, une communauté de survie, où les appartenances religieuses, les rangs sociaux, les couleurs de peau ne sont plus des critères d'appartenance communautaire. Il n'y a d'ailleurs que dans un camp de lépreux que vous pouvez rencontrer des juifs avec des samaritains. Nulle part ailleurs ça existe. On ne se fréquente pas. Mais dans cette communauté d'infortune, il semble qu'il se développe une vie quasi religieuse, une vie religieuse. Parce que cette communauté de lépreux n'a pas perdu espoir. Vous la voyez là, interpellant le prédicateur galiléen, Jésus de Nazareth. Et pitié, elle est en attente d'une guérison, cette communauté. Il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant. Jésus va demander à la communauté des lépreux d'accomplir un rituel religieux. Lui, Jésus, qui ne cesse de transgresser les usages religieux, le sabbat, les rituels d'ablution, le voilà en train d'envoyer les 10 lépreux chez le prêtre pour faire des sacrifices de purification. Et si vous voulez savoir précisément ce qui va se passer pour nos lépreux chez le sacrificateur, eh bien, vous n'avez qu'à lire le 14e chapitre du livre du Lévitique. Vous saurez tout sur la purification de la lèpre. Et c'est bien ce qui se passe ici. Jésus leur ordonne de suivre le processus de purification religieuse. Où il faudra, je l'ai lu, hein, il faudra égorger un poulet et puis un mouton. Il faudra asperger de l'eau mêlée de sang. Et puis il faudra appliquer de l'huile sur le lobe de l'oreille et sur quelques orteils aussi. Il faudra enfin réaliser une mixture à base de sang, d'eau, d'insectes séchés et d'hysope. Le tout sur une période de 8 jours. C'est écrit dans la Bible. C'est à cela que Jésus appelle ses lépreux. D'habitude, dans l'évangile, Jésus il prononce une parole de guérison, il dit quelque chose. Il fabrique un peu de boue, avec, par exemple, avec sa salive. Il envoie les gens à la piscine. Il leur impose les mains. Rien de tout cela ici. Et on peut se poser la question, pourquoi envoie-t-il ces gens retrouver le vieux chemin de la religion et ses sacrifices? C'est étrange, vous ne trouvez pas? Cet étonnement que vous partagez peut-être avec moi est sans doute lié à la vision assez négative, souvent méfiante, à l'égard de la religion. Et pourtant, ce que Jésus offre à ces hommes, c'est bien un retour à une vie sociale telle que la religion la définit et la protège dans le pays. Parce que la religion a cette capacité à créer du lien social, oui, et des services pour les gens, oui. Nous venons d'un coin du monde, il faut bien que je vous parle un petit peu de temps en temps du Liban. Pas fait jusqu'ici. Un petit pays où le service public est complètement absent. Ce sont les confessions religieuses qui prennent en charge les besoins des gens, l'éducation, la santé, l'aide sociale. Pas comme il faudrait, mais c'est elles qui s'en chargent. Ce sont les religions qui maintiennent aussi le socle des valeurs morales. Ici, nous parlons d'un socle judéo-chrétien, c'est ça qu'on parle. Elles rassemblent les gens dans des lieux de prière respectifs pour essayer de les rendre meilleurs. Et de toute évidence, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. La religion joue un rôle de régulateur social qui garantit une base appréciable pour la paix, la justice, le vivre ensemble entre les gens. Vous voyez ? Et d'ailleurs, parenthèse, notre société se rend compte aujourd'hui qu'en faisant disparaître le religieux du paysage public, elle a commis une erreur fatale. Non seulement les religions produisaient des services qui manque cruellement aujourd'hui à notre société, mais connaître ou reconnaître les religions comme composantes de la société permettait aussi de mieux les situer, de mieux les comprendre. Je crois que Jésus respecte ici le rôle de la religion. Il guérit ces 10 lépreux et les renvoie à leur vie. Ils vont y retrouver leur famille, leurs collègues de bureau, leur rabbin préféré. Jésus n'a rien contre la vie ordinaire. Et l'Église, toute protestante, toute évangélique qu'elle soit, a-t-elle échappé autant qu'elle le prétend au phénomène de la pratique religieuse? C'est pas si sûr. Elle organise ses services, ses cultes, elle définit son ministère pastoral, elle suit ses petits et ses grands rituels, elle a ses règlements, elle a ses traditions, elle développe aussi une vie sociale où l'on retrouve des amis pour manger ensemble, faire du sport, des voyages en bus, on peut même faire ses courses à l'église, ça j'ai découvert ici. Hein. Le chocolat. Le problème n'est pas là. Le danger, me semble-t-il, est évidemment de confondre l'Église avec le salut et d'en faire un but et non un moyen. Mais ce que ce passage nous dit dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas que du danger à pratiquer sa religion. Il y a aussi du bonheur à vivre cela. À vivre l'Église ensemble. Et puis, pour aller jusqu'au bout et être tout à fait honnête, Il ne faut pas non plus sous-estimer, en tout cas pas dénier aux religions, toute dimension spirituelle et croyante. Elle prépare notre humanité, elle prépare l'homme, chaque religion à sa manière, à la dimension du divin, ce qu'on appelle la transcendance. Souvenez-vous, l'apôtre Paul à Athènes, sans cynisme aucun, en acte 17, il va saluer le sens religieux très poussé des Athéniens. Et là, ce n'est pas le judaïsme dont il est question, c'est le paganisme, le polythéisme. Et moi, en tant que protestant dont la foi est totalement libre, n'est-ce pas, de toutes les images, de tous les lieux, qui est purement spirituel, n'est-ce pas, eh bien, j'aime m'asseoir dans les églises romanes, parce que j'y ressens quelque chose de tout à fait unique, cette dimension de la présence de Dieu à travers l'histoire. Bref, voilà nos 10 lépreux en marche vers leur prêtre, vers leur religion, vers leur vie. Jésus n'a pas constitué cette communauté-là en communauté de purs pour les mettre à part, il les renvoie à leur vie. Et ils vont se découvrir en chemin, guéris. L'expression dans le texte est très, très parlante. Et il arriva qu'ils furent purifiés. C'est bien l'action créatrice de Dieu qui a guéri ces hommes, ces personnes. Dieu est bon pour ces 10-là. C'est le Dieu qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Une fois purifiés, eh bien, 9 d'entre eux vont aller au bout de la démarche ordonnée par Jésus. N'oublions pas que l'ordre vient de lui. Et ils vont s'immerger à nouveau, probablement, l'histoire ne le raconte pas, mais on l'imagine, ils vont s'immerger à nouveau dans le bain des rituels de leur religion, retrouver le bonheur de marcher sur le chemin de la vie ordinaire. Un seul va transgresser le protocole. Le Samaritain. De toute façon, je me demande bien ce qu'il allait faire chez les prêtres juifs, celui-là. Les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Ils considèrent que ce sont des hérétiques qui ne reconnaissent pas les prophètes, ils n'ont que le Pentateuque. Mais peut-être notre lépreux, je l'évoquais au début, s'était-il attaché à sa petite communauté d'infortune. Alors, on ne se sépare pas facilement de ce qu'on aime. Il suit le mouvement sans réfléchir. Voilà qu'il se découvre guéri. Lui seul, va prendre un temps que les 9 autres ont négligé. C'est le temps de la reconnaissance. Au sens littéral du terme, il prend le temps de regarder, de connaître à nouveau, de reconnaître, de donner sens à ce qui lui arrive. J'aime beaucoup le jeu des regards. Il y a ici un jeu, oui, de regards très émouvant. Le Samaritain se souvient maintenant du regard de Jésus. Et il fait le lien entre ce regard croisé et la purification qu'il constate, qu'il reconnaît. Et il veut revoir ce regard. Il ne se sent pas seulement purifié physiquement, il se sait profondément guéri dans sa personne. Alors, il fait demi-tour. Le texte nous dit, il revint. Luc emploie ce mot à double sens chez lui, qui est très important. Revenir, retourner, se convertir, c'est le même mot. Symboliquement, c'est intéressant. Le Samaritain abandonne son projet de retour à la vie sociale à la vie religieuse normale pour saisir un autre destin. Il choisit un autre retour, celui d'une conversion à celui qu'il a regardé dans les yeux, dont il a senti la présence unique. Il se trouve chez ce guérisseur quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui donne sens à son existence. Il s'y trouve le salut. Notre Samaritain devient soudain un homme capable de reconnaissance, un homme de la reconnaissance. Pour nous aussi, je le crois, le révélateur de toute expérience de foi, de conversion, c'est la reconnaissance, c'est l'action de grâce, c'est la joie. Être sauvé, c'est cela, c'est naître à une vie de reconnaissance. Les chrétiens tristes sont de tristes chrétiens. Et c'est ce que martèlera l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, « Soyez toujours joyeux. » Ou encore aux chrétiens de Thessalonique, « Rendez grâce en toutes choses, pas seulement les choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette dimension de la reconnaissance est bien plus qu'une valeur. Elle est l'ADN, la marque de fabrique, le cachet d'authenticité du chrétien sauvé par le Christ. La reconnaissance aujourd'hui n'est pas facile à entendre dans notre société française. Elle a disparu dans le vacarme des nouveaux cultes que notre société rend à la santé, au corps, à l'éternelle jeunesse, à l'assouvissement frénétique de besoins complètement artificiels. Et ce message retentit à tous les paralytiques du remerciement, aux atrophiés de la louange, aux lépreux de la gratitude. Le Samaritain ouvre devant nous ce matin un chemin magnifique, lumineux. Il nous dit que la foi sans la reconnaissance n'est finalement qu'une religion parmi d'autres. Utile, certes, mais incapable de sauver. Nous sommes ainsi tous appelés à devenir de joyeux samaritains. Mais attention, sœurs et frères, il y a une autre exhortation implicite dans cette rencontre. Notre place n'est pas là, figée dans une prosternation religieuse, face contre terre, au pied de Jésus. C'est bien comme ça que se tient notre Samaritain. La vie d'église, où nous prenons le temps d'adorer ce matin et de communier à la table sainte, n'est qu'un instant dans la vie chrétienne. Jamais le but. Jésus ne doit pas devenir une idole de l'église. Pendant que nous prions ici, Jésus a déjà repris sa route vers Jérusalem, où il va donner sa vie pour chacun. Jésus est en marche, ne restons pas prosternés face contre terre trop longtemps. D'ailleurs, Jésus lui indique clairement sa route. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Trois verbes qui écrivent une feuille de route extraordinaire. Ne restons pas là figés dans nos habitudes, nos conforts religieux, même s'ils ne sont pas interdits, même s'ils sont utiles. Jésus nous relève de notre mort intérieure. Ce mot « relève-toi » est un mot très connu de l'évangile de Luc, c'est le même mot que « résurrection », »,« ressuscité ». Il nous libère d'un culte idolâtre et nous envoie dans le monde pour semer la reconnaissance, la gratuité, l'amour. Alors, oui, apprenons la reconnaissance, frères et sœurs. Non seulement pour ce qui va bien dans nos vies, mais ça c'est facile, même les païens sont capables de le faire. Mais aussi pour ce qui ne va pas bien. Car c'est au creux de nos manques, de nos souffrances, de nos lèpres, que Dieu vient révéler sa grâce et donner sa joie. Alors, vous voyez, c'est finalement au grand risque de la liberté, celle du témoignage, que Jésus nous appelle, et non pas à une vie religieuse bien tracée, qui finirait de toute manière par se corrompre dans une adoration stérile et idolâtre. L'Église, je le répète, n'est pas une fin, seulement un moment de grâce, un moment de ressourcement, un signe du royaume qui vient et qu'il faut vivre pleinement à chaque fois que nous nous rencontrons ici, et qu'il faut quitter ensuite pour aller ailleurs, dehors, sur nos chemins. Le Christ nous y précède déjà.